Bonjour et bienvenue dans l'atelier des médias. Je m'appelle Steven Jambeau. On est ensemble pendant une vingtaine de minutes si vous nous écoutez à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. On va parler de sport cette semaine et notamment de football avec la Coupe du Monde féminine qui a débuté il y a quelques jours. Cet événement majeur était pour moi une excellente occasion de recevoir Jérôme Cazadieu qui est le directeur de la rédaction du journal L'Équipe. Dans la deuxième partie de l'émission, on accueillera Christophe Jousset du service des sports de RFI qui vous fera vivre sur notre antenne la Coupe d'Afrique des Nations de football. Elle débute, je vous le rappelle, vendredi en Égypte. Enfin, mon blog audio nous emmènera à Dakar pour parler là encore de la CAN, une grande fête qui fait rêver petits et grands.
RFI.
Bonjour Jérôme Cazadieu.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de la rédaction de L'Équipe et la Coupe du Monde féminine de football se déroule actuellement en France. Alors, vous avez décidé, avec vos rédactions, de ne pas passer à côté, mieux, vous déployez un dispositif comparable à la dernière Coupe du Monde masculine, celle-là de 2018. Pourquoi ?
On a vraiment le sentiment qu'il se passe quelque chose dans la société française, qu'il se passe quelque chose chez nos lecteurs, que l'équipe de France féminine est aujourd'hui une équipe qui a vraiment beaucoup beaucoup progressé ces dernières années, qu'on a, je dirais, un élément d'alignement de planète, on va dire, qui nous amène à avoir une couverture qui est l'équivalente de la couverture des hommes. Bien sûr, parce que cette Coupe du Monde se déroule en France, parce que l'équipe de France fait partie des favoris, et donc on veut faire vivre cette Coupe du Monde du mieux possible. Et cette intuition s'est confirmée dès le premier match, et je crois même dès le deuxième match, si j'en crois les audiences des chaînes. On sent que le terme Coupe du Monde, bah, ça éveille une espèce de magie, de féerie chez nos lecteurs, chez nos lectrices. Et donc, on va essayer de proposer, et on propose déjà un traitement qui est le plus exhaustif possible sur cette compétition.
C'est-à-dire combien de pages chaque jour?
Alors moi je calcule pas en pages parce qu'on a aussi le numérique, la vidéo, le gratuit, le payant, etc. Mais je dirais qu'aujourd'hui nous on a pour l'ouverture de la Coupe du Monde, si vous prenez le cas du journal, on était sur 16 pages consacrées à la Coupe du Monde féminine, à la fois l'équipe de France, les enjeux, c'est une compétition qui a lieu en France donc il fallait vraiment le mettre en avant, présenter aussi les joueuses, parce que les joueuses n'ont pas la notoriété aujourd'hui des garçons, à la fois les françaises mais aussi les étrangères, présenter aussi les autres pays. Et puis comme on accueille cet événement, on a beaucoup de supporters qui vont venir, beaucoup de supportrices, de familles, avec une population dans les stades qui est pas tout à fait la même que celle pour les garçons, qui est plus familiale. Et l'idée c'était aussi de les montrer, de raconter des histoires, de montrer aussi les lieux, puisque la Coupe du Monde se déroule dans un certain nombre de villes, Paris évidemment. On en a Le Havre, Rennes, Nice, Lyon. Donc l'idée, c'était vraiment de raconter cette Coupe du Monde sous tous ses aspects.
Est-ce que vous voyez déjà un effet Coupe du Monde féminine sur les ventes de ces derniers jours et sur le trafic sur vos environnements numériques?
Alors, je peux mesurer le trafic, voilà, parce que le trafic est en temps réel. Donc sur le trafic, on voit que ça intéresse quand même plutôt nos lecteurs. Après, ce qui intéresse le plus nos lecteurs, c'est la vitrine de cette Coupe du Monde. La vitrine du football féminin, c'est l'équipe de France. Voilà, on fait des audiences qui sont plutôt très bonnes. Alors nous, c'est toujours pareil, hein. Nos lives marchent d'autant plus si le match est diffusé sur une chaîne privée. Là, il est diffusé sur une chaîne publique et sur une chaîne privée. Donc, nos lives sont pas obligatoirement extrêmement élevés, mais je dirais que c'est dans la droite ligne des matchs de l'équipe de France masculine. Donc, de ce point de vue, on est plutôt content. Sur les ventes au numéro, on n'a pas encore assez de recul. J'aurais des premières tendances, je dirais, en fin de semaine. Mais j'ai du mal à croire que les audiences enregistrées par TF1 n'aient pas une incidence aussi, sur nos résultats. Je crois, voilà, j'ai la conviction que nos ventes en kiosque vont être meilleures.
Très bien. Alors parlons maintenant de la mue numérique de L'Équipe. Le journal a été fondé en 1946, c'est bien ça.
Exact.
A suivi L'Équipe Magazine en 1980, la chaîne L'Équipe en 98, puis ensuite sur la TNT en 2012. Votre site internet a été lancé en l'an 2000, une application en 2006. Maintenant vous faites des podcasts, vous êtes sur Alexa, Google Home, on va y revenir. Vous, personnellement, vous êtes directeur de la rédaction depuis 2015. Vous avez été en charge du passage au format tabloïd, avec également une mission accélérée, la transformation numérique de L'Équipe, notamment travaillant sur les formats. On dit maintenant que L'Équipe, c'est une rédaction unique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire, une rédaction unique?
Une rédaction unique, c'est une rédaction qui est composée de journalistes qui travaillent sur des articles, des contenus indistinctement du support. C'est-à-dire, voilà, je suis journaliste foot, on va me demander de faire un article, cet article il peut être diffusé aussi bien sur une plateforme numérique que dans un univers print, voire être totalement vidéo ou concerner peut-être une chaîne de télévision. Donc notre rédaction aujourd'hui, elle ne travaille plus par rapport à un support, elle travaille par rapport à une matière et elle travaille cette matière sur tous les supports. Voilà. Après, certains supports, ont des formats parfois plus spécifiques que d'autres. Et là, on respecte, je dirais, cette spécificité. Voilà. On sait par exemple qu'un article très long supporte mieux parfois d'être sur le print que sur le numérique. Mais aujourd'hui, nos journalistes sont plutôt à l'aise et travaillent indistinctement sur tous les supports. On avait quand même amorcé cette fusion des rédactions qu'on a mis en place à la fin du mois de décembre de l'année dernière avec des grands événements. On a utilisé d'abord le championnat d'Europe 2016 qui se déroulait en France où les équipes qui étaient séparées du foot par exemple entre le print et le numérique travaillaient conjointement. On a fait la même chose entre les équipes qui travaillent sur l'omnisport et les sports olympiques en particulier et les équipes numériques travailler ensemble sur les Jeux de 2016 à Rio. Et on a fait ça 4-5 fois avant de fusionner les rédactions. Donc ça nous permet, nous, aujourd'hui, de passer au temps réel. Voilà. On avait une organisation qui était un peu trop centrée sur le papier. Aujourd'hui, notre organisation, elle sert tous nos clients, d'une certaine manière, puisque nous avons aujourd'hui 237 000 abonnés numériques et que ces abonnés numériques, ils ont un usage. Et cet usage, c'est le matin, quand je me lève, que je prends mon petit déjeuner, si j'ai des enfants, je vais consulter l'équipe souvent via le journal ou les articles issus du journal, mais que quand je vais aller au bureau, je vais avoir aussi une pratique, au bureau. Et cette pratique au bureau, elle va démarrer à 10h, elle peut durer jusqu'à 18h, on va dire que c'est 10h, 15h, où c'est le plus fort. Donc là, si on est quelqu'un, qui paye un abonnement, eh bien, on lui pousse du contenu spécifique, voilà, pour les abonnés, très adapté au numérique, pour qui sont des rebonds, voilà, par rapport à une actualité. Voilà, on essaie de réduire le temps, entre le déroulé, en gros, de cette actualité et la réalisation d'un article, sa mise en ligne. Et puis le soir, voilà, on sait que le soir, c'est notre plus gros pic, où on va dire à partir de 18h jusqu'à 23h, parfois minuit ou minuit et demi, selon l'actualité sportive qui se déroule souvent le soir. On va pouvoir pousser pas mal d'autres contenus qui peuvent être des avant-premières du journal du lendemain ou encore d'autres exclusivités numériques.
Et sur votre site, vous comptez 3 millions de visiteurs uniques chaque jour. Oui. Ce qui est intéressant aussi, c'est le temps passé par utilisateur qui est très élevé par rapport à un site d'information classique. Ça, c'est dû au live notamment.
Alors ça, c'est dû au live. Alors c'est dû au live. C'est dû aussi à certains types de contenus qu'on a développés. Vous évoquiez tout à l'heure les podcasts. Par exemple, les podcasts. On sait que globalement, quand quelqu'un écoute un podcast, il l'écoute du début jusqu'à la fin. On a lancé aussi en 2013 l'équipe Explore, qui est une marque numérique sur l'équipe.fr, qui est très innovante, qui est sur les longs formats, sur des formats stories, des formats audio, des formats vidéo, où là, on a des taux d'engagement qui sont extrêmement élevés. Et puis, ce qu'on note surtout, c'est que, notre basculement sur le numérique avec une offre gratuite, une offre payante qui est toujours plus riche, fait qu'on a de plus en plus de pages vues, voilà, par visite. Donc quelqu'un qui vient, par exemple, se connecter sur l'équipe.fr, avant il venait pour un article et il repartait tout de suite après, il va rester, il va faire un deuxième article, un troisième article et parfois un quatrième article. Et s'il est abonné, il peut venir 4 à 5 fois, parfois 6 fois par jour et il consomme en moyenne entre 8 et 10 articles. C'est-à-dire que dans une journée, un abonné moyen, il est à 45-50 articles ou contenus par jour consommé. Donc, on a créé une forme d'addiction, voilà.
C'est une forte notoriété de marque avec un taux de rétention assez impressionnant, comme on dirait.
Oui. Évidemment, l'équipe a une notoriété qui est extrêmement forte. Un des gros drivers de notre audience, c'est évidemment les lives, puisqu'on propose, l'intégralité des matchs de football, de rugby, de tennis. Voilà, quel que soit l'événement qui se déroule dans le monde, on a la possibilité de le suivre en live sur l'équipe. Mais on a aussi développé tout autour, voilà, ce qui est notre force. L'équipe, à la base, c'était un média de passion il y a très très longtemps, je dirais. Vous évoquiez la création de l'équipe. C'est devenu un média de passion et je dirais de statistiques, puisque le sport, ce sont aussi des chiffres, des classements, des buteurs, des choses comme ça. Et je dirais que depuis 4 ou 5 ans, on est devenu un média d'information, parce que voilà, aujourd'hui, l'information sportive, elle existe partout. Elle est à la fois sur des chaînes payantes, des chaînes gratuites, mais elle est aussi en radio. Elle est également, dans des journaux généralistes. Le Monde fait, ou le Figaro font beaucoup de sport. Donc pour nous, c'était important, voilà, de se distinguer des autres. Pour se distinguer des autres, l'information, c'est vraiment une offre, une promesse qui fait la différence auprès de nos abonnés et de nos lecteurs.
Et pourtant, le quotidien, qui est au format tabloïd depuis 2015, continue à bien se vendre. Donc, il est vendu 1,70€ en semaine, 2,70€ le week-end.
Le samedi, précisément.
Vous revendiquez 3 millions de lecteurs chaque jour. Et votre diffusion en France continue à progresser au global. Si j'ai bien compris, 2/3 de votre diffusion payante en France, c'est de la vente au numéro, papier.
C'est exact.
Et un tiers, c'est sur le numérique, c'est ça?
C'est exact.
Oui. Donc, vous arrivez quand même à continuer à croître.
Bien sûr. Alors nous, cette transformation digitale ne se fait pas sans une vraie croyance dans le papier. Et voilà, pour nous, le papier, on y croit. C'est le format historique de l'équipe, c'est le support historique de l'équipe. On a un attachement, qui est un attachement extrêmement fort. Donc évidemment, on essaie de faire en sorte. On n'a jamais voulu faire croire à notre lecteur qu'on allait faire d'un journal un site ou un site un journal. On respecte quand même ces deux univers. Mais pour le journal, nous, on a des temps forts. Cet enfort, ce sont les événements.
Et vous appuyez autour de ces événements.
Et on s'appuie très fortement autour de ces événements. Donc, par exemple, là, depuis le début du mois de juin, on a eu la chance d'avoir un tournoi de Roland-Garros exceptionnel. Avec à la fois Federer, Nadal, Djokovic qui étaient présents, des Français qui ont été plutôt pas mal finalement. Ils ont fait une bonne première semaine. Mais derrière, on savait qu'on allait avoir la Coupe du Monde féminine, avec en plus un peu de rugby qui démarre à la fin.
Donc, et puis
le Tour de France qui arrive. Donc on essaie vraiment de travailler pour à la fois raconter les histoires, bien informer nos lecteurs, créer des événements, être capable de réagir par rapport à un événement. Voilà, on sent que l'engouement qui entoure l'équipe de France féminine va nous amener à augmenter, on va dire, notre exigence, notre capacité à rendre quasiment unique le journal chaque jour. On l'avait fait pendant la Coupe du Monde 2018. Je ne sais pas si vous vous souvenez de certaines unes qu'on avait faite. Par exemple, la France va affronter la Belgique. Bah voilà, la présentation de France-Belgique, c'est la reproduction d'une une de Tintin. On a marché sur la lune et on a redessiné. On a demandé à un de nos dessinateurs, Thibaut Soulcier, d'essayer de reprendre les personnages. Donc Tintin, c'est devenu Didier Deschamps, etc. On l'a toujours cherché à se réinventer.
Et ce sont des unes que certains choisissent de garder et affichent parfois chez eux au bureau, sur le bureau.
Il y a le côté très collecteur, très fétichiste. Hein, on est presque une secte avec des gourous et des fidèles, mais je dis ça en rigolant bien évidemment, mais non, ce qui est certain, c'est que si on démarre bien une compétition, les lecteurs vont nous suivre. Et un élément qui est important, c'est les résultats de l'équipe de France, par exemple l'équipe de France féminine. On sait qu'un premier tour, on va augmenter nos ventes progressivement. Et puis quand les matchs à élimination directe vont arriver, qu'il va y avoir une espèce de tension, une peur, qu'on va avoir des émotions extrêmement fortes qui vont être ressenties par nos lecteurs, parce que par le biais de la télévision, puisque ça reste quand même le premier biais par lequel ils consomment l'information sportive, et bien derrière ils vont vouloir continuer en fait à ressentir ces émotions là peut-être même avec des notions de débat, d'analyse, de polémique. Mais alors, qu'est-ce que l'équipe pense de cette intervention de l'arbitre? Est-ce que le VAR était justifié, était pas justifié? Donc le lendemain, le journal est très important, et on voit que nos ventes, elles augmentent au fur et à mesure du déroulé d'une compétition. Donc si l'équipe de France va loin, si jamais elle va en finale, si elle est championne du monde, on sait qu'on fera un excellent, excellent mois, et ça portera notre diffusion France payée sur l'année 2019.
Alors, je n'ai pas trouvé de chiffres sur la sociologie des lecteurs de l'équipe, du quotidien papier, par exemple, une idée du pourcentage d'hommes et de femmes, ou des tranches d'âge.
Alors, ce sont on a des études qui ont été faites, mais c'est des études qui sont très imparfaites. Alors, je vais vous donner quelques données, mais ce ne sont pas des données scientifiques, je préfère le dire. On estime que c'est à peu près 80% des lecteurs du papier sont des hommes. Voilà, la moyenne d'âge, elle est plutôt autour de 45-48 ans, ce qui est très jeune pour un journal, puisque en fait l'équipe se renouvelle souvent par le papa avec les enfants ou le grand-père. Mais on commence à avoir aussi des femmes, voilà, qui lisent l'équipe. On en a de plus en plus. Il y en a plus sur le digital. Voilà, aujourd'hui sur le digital, on estime que on a autour de 35% de femmes qui consomment l'équipe.fr dans sa version gratuite. Sur le payant, je pense que la proportion est sensiblement la même. Et puis après, on a, certaines marques qu'on a développées. Je pense notamment à l'équipe Explore, dont on parlait tout à l'heure, qui aborde des sujets qui sont un peu plus en périphérie du sport, parfois des sujets qui sont beaucoup plus sociétaux. Ces sujets-là, ils attirent beaucoup plus de femmes. Voilà, et souvent des lecteurs qui ne viendraient jamais sur nos supports. Donc l'équipe Explore, par exemple, à chaque fois qu'on pousse un long format ou un format stories ou un format très interactif, on a à peu près entre 50 et 60% des gens qui vont le consommer, qui n'étaient pas venus sur le site l'équipe le moi en question. Donc c'est aussi un moyen de conquête. Donc le sport aujourd'hui, on voit que la féminisation elle arrive, ça va être pour nous une chance unique d'élargir, je dirais, notre public et potentiellement d'aller un peu plus loin dans les territoires qu'on explore.
Et pour ça, est-ce qu'il faut également changer les équipes ou en tout cas les faire évoluer pour pouvoir répondre justement à ces questions? Les sports, la dimension féminine de certains sports justement n'était pas forcément dans le radar des équipes que vous aviez peut-être?
Alors, il y a deux choses. Moi, je pense qu'il faut qu'on distingue le sport, les sports individuels des sports collectifs. Les sports individuels, hommes et femmes, ont toujours été très bien couverts par l'équipe. Pourquoi? Parce que, prenons on va prendre des Jeux Olympiques, des championnats du monde d'athlétisme. C'est une compétition où les hommes et les femmes sont dans un même lieu, avec les mêmes courses, ou presque, avec les mêmes médailles, le même maillot, etc., etc. Donc, on a toujours suivi, très fortement les sports individuels, sur le plan féminin. Voilà. Le tennis, bien évidemment, etc. Pour les sports collectifs, c'était plus compliqué. Ça a été plus compliqué aussi parce que, parfois, il y avait une scission entre les hommes et les femmes, voilà, dans la manière dont c'était fait. Les hommes ne jouent pas en même temps que les femmes, ou pas au même endroit. On voit bien, par exemple, que les joueuses, par exemple, de l'équipe de France qui évoluent dans le championnat de France de première division, elles jouent parfois dans des tout petits stades. C'est pas les grands stades tels qu'on les connaît. Il y en a de plus en plus, mais il n'y a pas encore suffisamment de clubs de Ligue 1 qui ont une section féminine de haut niveau. Et c'est vrai que on peut avoir des équipes qui jouent à Soyeux, qui jouent en banlieue parisienne, sur un stade qui ressemble à un stade de CFA, assez champêtre, avec des conditions d'accueil qui sont très limitées. Donc, je dirais qu'il y a deux choses qui sont différentes. Il y a un mouvement qui a été enclenché du côté des sports collectifs qui va avoir lieu. Et après, il y a nos équipes à nous, voilà, c'est-à-dire nos journalistes. Nous, on a une position assez volontariste. Voilà, on veut vraiment féminiser la rédaction. On a commencé par la rédaction en chef, où on est passé de trois femmes à la rédaction en chef. Parmi les responsables de l'équipe print et numérique mélangée à 14, voilà, donc à des postes qui sont des postes importants, hein. On a Géraldine Catalano qui est la rédactrice en chef du magazine, hein, le magazine L'Équipe. Voilà, on a Frédéric Galametz qui est à la tête du pôle extra, qui elle s'occupe en particulier des pages médias, des pages économiques. On a tout un ensemble de responsables dans des services qui sont importants, hein. À la rédaction en chef du foot, il y a une femme, à la rédaction en chef de l'édition du foot, vous avez une femme également, donc voilà, les choses se font. Et après, il y a les rédacteurs et les reporters, là c'est un peu plus compliqué, on fait le tour des écoles de journalisme, souvent, les journalistes femmes sont moins intéressés que les hommes par un contrat à l'équipe, ou même concourir à des prix qui peuvent permettre de gagner un CDD, etc. Donc là, on essaie d'expliquer que voilà, on a élargi notre spectre, que on va aussi bien sur des sujets très actus, les classements, les chiffres, les résultats, mais aussi sur des univers un peu différents, où on peut aller vraiment sur des questions de société, où on peut aller sur des portraits en profondeur, sur du reportage, puisque l'équipe, ça reste quand même un des médias où on fait le plus de reportages, voilà. Et on commence, à accrocher un certain nombre de journalistes femmes.
Est-ce que vous avez l'impression aussi que l'écosystème est en train de changer pour les sports collectifs féminins, et que est-ce que les annonceurs suivent également? Est-ce qu'ils sont volontaristes aussi, puisque c'est le terme que vous employez tout à l'heure, volontariste?
Alors, si on prend le sport phare des sports collectifs, qui est donc le foot, avec la Coupe du Monde féminine, on a eu plus d'annonceurs pour le match d'ouverture des femmes que pour le match d'ouverture de la Coupe du Monde des hommes. Voilà. Donc oui, les annonceurs, suivent aujourd'hui ce mouvement-là. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe, et je dirais que tout le monde joue le jeu collectivement, sans être en concurrence. Voilà, TF1, Canal+, l'équipe, mais aussi les radios. Les médias traditionnels sont extrêmement volontaristes, et je dirais que ensemble, c'est ensemble qu'on va être capable de transformer la culture de nos consommateurs, parce que voilà, on sait très bien que les téléspectateurs de TF1, comme les lecteurs de l'équipe, quand ils consomment du sport, ce sont d'abord des hommes. Voilà, le sport féminin à la télé, il est consommé majoritairement par des hommes, voilà. Mais on voit aussi, à côté de ça, de plus en plus de femmes qui pratiquent des sports. On voit aussi, il suffit d'aller dans des cours de récréation, dans des clubs de foot ou de sport collectif. On a des sections mixtes, voilà. Le foot, par exemple, jusqu'à l'âge de 13 ans révolu, on a des équipes mixtes. On peut avoir une femme qui est l'attaquant d'une équipe composée par des hommes. Donc, il n'y a pas de raison.
L'attaquante.
Il n'y a pas de raison, de séparer les choses. C'est extrêmement important, le sport est une des matières qui permet de réunir les gens. Voilà, je pense que c'est un bon moyen de réunir, comment dire, les hommes et les femmes à une époque où, voilà, il y a quand même pas beaucoup de choses qui ont changé dans la société et il faut que le sport apporte, je dirais, sa contribution. Et nous, l'équipe, voilà, même si nous ne sommes pas, comment dire, un média public, on a une obligation, je dirais, de faire avancer, comment dire, ces causes-là, ces sujets de société, et on prend notre part dans cette ambition.
Peut-être qu'on pourrait parler un petit peu de l'approche du son de l'équipe, puisque on en parlait tout à l'heure, vous avez lancé des podcasts et également vous êtes lancé sur le marché des enceintes connectées avec Alexa et Google Home. Quelle est votre ambition là-dessus? Est-ce que pour vous c'est juste de la prospective, l'idée d'être présent sur quelque chose, ou alors vous y croyez fondamentalement?
Alors nous on s'est lancé assez tôt, voilà, pour un média non spécialiste d'audio, de radio, etc. On s'est lancé en 2017. On y est allé au début vraiment pour faire de la prospective. Voilà, on se dit bon, on va voir qu'est-ce qu'on peut défricher. On a toujours été assez innovant comme média et on voyait bien ce qui se passait notamment dans les pays anglo-saxons. Donc on a commencé par des talks. Voilà, la chaîne dispose de plusieurs talks qui sont très orientés sur le foot. On s'est dit que on n'avait pas l'intérêt d'aller sur le foot, plutôt d'aller sur des sports qui sont des sports importants, mais peut-être trop de niche pour des médias télé. Et on voulait avoir une écriture qui soit une écriture très radio, qui soit beaucoup plus podcast. Donc on est allé sur du rugby. On a fait le choix de faire travailler des gens en interne. Donc c'est une animatrice chez nous, hein, qui est une de nos journalistes qui est au magazine, qui anime ce podcast-là. Et on a commencé à apprendre tranquillement, sans aucune obligation de résultat, sans regarder quelles sont, comment dire, les écoutes, les téléchargements, etc. Et puis on a ajouté un deuxième podcast, puis on a ajouté un troisième podcast. Et puis on a commencé à se dire, bon, bah, ça commence à prendre. Voilà. Et on a pris une personne cette année, qui était chargée, bah, à la fois d'organiser, de mieux structurer, comment dire, notre offre, et aussi d'être un peu moins dépendant à une société qui continue à nous accompagner, qui s'appelle Binge Audio, voilà, qui est comment dire, un des pionniers français en la matière de podcast. Et là on a attaqué, je dirais, le non linéaire. Donc on a essayé d'élargir également notre spectre. On a fait une collection sur une demi-saison qu'on va reconduire l'année prochaine, où on fait rencontrer un footballeur et un rappeur qu'on appelait Une Deux, qui est un carton absolu. Et si on additionne là, par exemple, sur le mois de mars, avril et mai, nos audiences sur l'audio, on dépasse le million d'écoutes à chaque fois. On a fait 1 million en mars, 1 million en avril, on a 1 300 000 en mai, et on pense qu'on va continuer à monter. Et on voit que c'est un système, je dirais, hybride, le podcast, pour nous. C'est un système de souscription où on a, je dirais, c'est du gratuit, mais les gens qui viennent, en fait, ils viennent comme s'ils étaient abonnés. C'est-à-dire qu'on a, je pense, réussi à asseoir une base de fidèles, voilà, qui suivent, entre guillemets, notre podcast rugby, basket, comment dire, boxe, MMA. Et maintenant, on commence à aller en chercher des nouveaux. Et donc, on a un volume minimum à chaque fois qu'on fait un podcast rugby qu'on atteint. Voilà, on fait tant d'écoutes à chaque fois. Donc, on est plutôt content et on espère derrière qu'on pourra, à un moment donné, monétiser, comment dire, ces podcasts.
Et en plus de ça, un flash quotidien sur les enceintes connectées.
Tout à fait. Ça, dès 2017, lorsque Google Home est arrivé, on a été sollicité par Google pour voir si on était capable d'être assez innovant sur les enceintes. Donc, on a fait un flash info. Ce flash info, on essaie maintenant de le faire évoluer. Peut-être que demain ça deviendra un daily. On n'en est pas encore là parce que on n'est pas encore suffisamment, voilà, un quotidien sur le modèle du daily New York Times. Ouais. Voilà, moi j'estime qu'il faut qu'on ait d'abord tout un travail un peu en longueur pour qu'on soit bien solide sur nos appuis avant de se lancer sur un quotidien. Et là, oui, comment dire, on a des résultats qui sont excellents et on voit que les enceintes connectées sont de plus en plus utilisées. Donc, pour répondre à votre question à la base, moi je crois à l'audio. Je crois à l'audio parce que l'audio, ça va permettre de raconter des choses qui sont des choses différentes. Parce qu'on est aussi aujourd'hui dans des logiques où il y a à la fois de l'information et des logiques de plateforme de divertissement. Et l'audio apporte quelque chose qui va être quelque chose de différent. Voilà. Je parle notamment sur tout ce qui va être audio podcast natif, où on va pas être dans des émissions, comment dire, qui seront une sorte de replay de la télévision, mais où on peut aller chercher, voilà, une vraie narration, une expérience qui est différente, et on voit qu'il y a une population qui est intéressée par ces sujets.
Avec notre prochain invité, Christophe Jousset du service des sports de RFI, on va parler de la CAN 2019. Comment l'équipe va couvrir cette compétition?
Alors nous, la CAN, on va la couvrir, on va pas la couvrir énormément, je dois l'avouer. On en voit.
Pourquoi?
Bah en fait, ça intéresse et ça n'intéresse pas nos lecteurs. C'est ça qui est un peu compliqué. Je pense que c'est lié beaucoup à un manque de lisibilité de cette compétition pendant des années. Avant, elle était en janvier-février. C'est la première année où elle va se dérouler l'été. c'était des joueurs qui étaient, comment dire, dans des championnats, type le championnat de France, la première ligue, etc., qui quittaient leur club pour aller disputer une compétition qui se déroulait pendant notre championnat, notre feuilleton principal. Donc je dirais que l'attachement à la CAN a été sûrement très important en France, plus important peut-être que certains autres pays européens, mais il était, je dirais, parasité par le fait que, en termes de calendrier, il était en concurrence avec à la fois les championnats classiques, puis après il y avait la reprise de la Ligue des Champions. Là, il va avoir lieu, comment dire, au mois de juin. Dans l'absolu, peut-être qu'on va regretter de ne pas avoir envoyé suffisamment de monde.
Voilà. Là, vous envoyez combien de personnes?
On a deux personnes qui partent,
en Égypte.
Voilà. Et voilà. Après, on se donne la possibilité d'en envoyer une supplémentaire si jamais il se passait quelque chose. Mais on a aussi la concurrence, je dirais, de la Coupe du Monde féminine qui est en France. Donc voilà, c'était pas obligatoirement quelque chose de très évident. On va voir ce que ça va donner. Une CAN qui a lieu l'été. Une cinquantaine d'équipes. On va voir qui se déroule, en Égypte. Est-ce qu'il va pas faire trop chaud? Quelle va être la qualité, des matchs qui vont être faits? On a vu que la dernière finale de Ligue des Champions africaine s'est pas très bien déroulée puisque le VAR n'a pas marché. Elle va être rejouée avec un nombre de polémiques très important. Voilà. Donc, mais on croit fortement, en tout cas, au foot africain. Voilà.
Vos audiences africaines sont faibles pour l'instant?
Non, elles sont pas faibles. Elles sont très fortes, notamment sur France Football, voilà, qui est une marque, moi que je dirige aussi France Football, qui est dans l'univers de l'équipe. C'est, je crois, 15 à 20% du trafic de francefootball.fr, donc c'est extrêmement important. Par exemple, quand on fait le Ballon d'Or, on sait qu'on a un pourcentage très élevé, d'entrée sur nos supports via l'Afrique. Donc, je dirais que historiquement, c'est plus France Foot qui a toujours été tourné vers l'Afrique, mais on a aussi un certain nombre on estime à peu près 9% de nos internautes et mobinautes qui viennent de l'étranger, et la majorité de ces 9%, c'est plutôt d'origine du continent africain. Plutôt francophone, bien évidemment.
Donc voilà, donc le football africain et l'Afrique francophone sont une piste et un terrain peut-être de développement pour le groupe L'Équipe dans les années à venir.
C'est un terrain de développement pour le groupe L'Équipe dans les années à venir. On a la chance d'être en langue française. On voit qu'il y a un intérêt de plus en plus important de la part des lecteurs en Afrique pour le sport et le sport qui se déroule en Europe. On voit qu'il y a un usage qui est plutôt un usage mobile. Nous, on est très fort sur le mobile déjà. Donc la fusion des rédactions, la transformation de la rédaction va nous permettre demain d'être capable de rééditer l'ensemble de nos contenus, qu'ils viennent du magazine, du quotidien, du numérique, voire de France Football, peut-être dans un ensemble qui peut être à destination de l'Afrique. Voilà, la seule chose qui nous manque aujourd'hui, c'est gérer une connotation un peu plus locale, régionale, puisqu'on n'a pas de journalistes qui sont basés sur le continent. On a des correspondants qui travaillent dans les différents pays. Avec ceci près que pour connaître quand même un peu le football africain, il y a une lisibilité parfois des compétitions qui est un peu compliquée pour des phénomènes qu'on connaît, parfois des phénomènes de corruption, parfois des phénomènes juste de niveau, voilà, d'infrastructure, de nombre de joueurs qui peuvent disputer des matchs, de difficultés à organiser, à bien organiser les compétitions.
Merci Jérôme Cazadieu.
Merci à vous.
Avant de poursuivre et d'accueillir Christophe Jousset pour parler de la CAN, savez-vous que le New York Times ne publiera plus de dessins politiques dans son édition internationale ? C'est ce que l'on a appris lundi de la part du grand quotidien américain. Cette décision radicale fait suite à une polémique née après une caricature publiée en avril qui montrait le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, une caricature jugée antisémite. Depuis de nombreuses années déjà, l'édition américaine du journal n'avait plus de dessins politique. Cela devrait donc être le cas aussi dans l'édition internationale, et ce à compter du 1er juillet. L'affaire, en tout cas, pose de sérieuses questions et fait réagir. Le dessinateur français Plantu, fondateur de l'association Cartooning for Peace, se dit inquiet pour l'avenir de nos démocraties et la liberté d'expression. Vous êtes toujours à l'écoute ? Allez, on va parler de la CAN, là, maintenant, tout de suite, avec Christophe Jousset.
atelier@rfi.fr
Bonjour Christophe Jousset.
Bonjour Steven.
Vous êtes journaliste au service des sports de RFI. Alors la Coupe d'Afrique des Nations s'ouvre vendredi 21 juin en Égypte. La CAN, pour vous, j'imagine que c'est un moment super important.
Oui, c'est probablement le moment le plus important, celui qu'on attend tous les deux ans quand on travaille au service des sports de RFI, parce que c'est la grande fête du foot africain. Et c'est quelque chose qui rythme notre vie sur le long terme dans cette grande et belle radio.
Alors vous, c'est votre combienième CAN cette année ?
Ça va être la 11e. J'ai commencé en 2000 sur la CAN, co-organisée par le Nigeria et le Ghana, et gagnée par le Cameroun.
Et le dispositif antenne de RFI cette année sur la CAN, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un dispositif sans doute rodé pour nous, que tous les deux ans on remet en marche, ou est-ce qu'on évolue un petit peu ?
Là, il y a un changement majeur cette année, du fait du changement de format de la compétition, puisqu'on passe de 16 à 24 pays, c'est une grande première, et bah, ça fait beaucoup de matchs en plus. Rendez-vous compte que de 16 à 24 pays, on augmente quand même de 50% le plateau. Ce qui nous a obligés, alors jusqu'à présent, notre principe de couverture, c'était de couvrir pour les commentaires en direct absolument tous les matchs, donc les 32. Là, c'est plus possible.
Et donc on fait quoi ? On fait des choix ?
On est obligé de faire des choix. On est obligé de faire des choix, effectivement, en fonction de des attentes de nos auditeurs, hein, fort logiquement. Donc, on va se concentrer sur les plus grandes affiches, sur les pays francophones, bien entendu, et en essayant de couvrir un maximum de matchs. Ça fera quand même une quarantaine de matchs, hein, donc ça fait du boulot pour tout le monde. On a été obligé d'élargir notre effectif, notre dispositif, que ce soit au niveau des journalistes, au niveau des techniciens et au niveau de la logistique.
Au niveau de l'organisation, pour l'instant, est-ce qu'on est dans les temps ?
On est plutôt confiant de ce point de vue-là, hein, puisque l'Égypte est un grand pays de football et qui a déjà organisé à plusieurs reprises une Coupe d'Afrique des Nations. Là, le délai était court parce que il y a eu évidemment le feuilleton du Cameroun désigné organisateur et finalement à qui on a retiré l'organisation de cette CAN 2019. Donc, ouais, on va voir sur place, on va juger sur pièce. Il y aura sans doute quelques petits problèmes, comme à chaque fois, mais globalement, il n'y a pas de raison de s'attendre à une CAN mal organisée.
Comment ça se passe pour les journalistes, une CAN ? Comment est-ce qu'on la couvre ?
On la prépare déjà beaucoup avant de partir, avec l'attente, notamment avec le suivi des éliminatoires de la CAN, évidemment, avec l'attente des listes des 23, et ça vient de tomber cette semaine, puisque la date limite, c'était mardi soir pour que chaque pays dépose auprès de la CAF sa liste des 23 joueurs sélectionnés, et dès qu'on a la liste des joueurs qu'on va voir évoluer sous nos yeux, eh bien, on cherche sur Internet, c'est beaucoup plus facile de préparer une CAN aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Là, on a toutes les infos dispo sur Internet pour entrer dans l'intimité du parcours, de la carrière de tel ou tel joueur.
Alors, on reviendra sur Internet, mais j'aimerais que vous m'expliquiez un match normal de la CAN. Comment est-ce que ça se passe pour vous ? Vous arrivez combien de temps en avance déjà ?
Alors, ça dépend de l'affiche, parce que il y a des affiches qui attire très peu de spectateurs. On a vu des matchs de CAN devant 300 spectateurs, donc là c'est pas la peine de s'inquiéter outre mesure sur l'accessibilité au stade. Donc on peut arriver, disons une heure et demie avant, de façon à être totalement serein par rapport à ces histoires de transport vers le stade. Là en Égypte, on s'attend à ce qui est quand même, vous connaissez le contexte, des problèmes de sécurité. Il y a eu des attentats terroristes ces derniers mois, jusqu'à encore récemment. Donc on pense que la sécurité va être renforcée. Il y aura des contrôles. Le matériel, quand on passe les contrôles avec du matériel professionnel, il y a toujours, ça prend toujours plus de temps. Faut tenir compte de ça. Et puis, il y aura quand l'Égypte jouera, de grosses affluences dans les stades. Sans doute aussi quand les pays du nord de l'Afrique seront dans le stade aussi. Voilà.
Et durant un match, vous avez, j'imagine, préparé plein de choses, vous avez plein de notes devant vous.
Oui.
Est-ce qu'il y a des écrans de télé aussi pour pouvoir suivre le match ? Comment ça se passe en règle générale ?
Il n'y a pas systématiquement des écrans de télé avec les ralentis. Mais
donc
ça...
vous avez des jumelles ?
Bon, on essaye d'être super. Déjà, on est deux pour commenter, donc ça limite. Voilà. Non, ce qu'on fait pour contourner la difficulté de contrôler, d'éviter de dire une bêtise, déjà, on est deux. Donc, avec quatre yeux, on voit davantage. Si on n'a pas le ralenti, on peut compter sur la personne qui est en studio, la personne qui est en studio à Paris, elle est en train de regarder le match à la télé, va avoir les ralentis, éventuellement plusieurs angles de caméra, et pourra nous aider à affiner notre commentaire et notre description de telle ou telle action. Il arrive qu'on se trompe sur le nom d'un buteur, ça arrive sur le direct, quand ça se passe à 80 mètres et qu'il y a beaucoup de monde devant le but, c'est pas toujours évident, donc voilà.
Et au coup de sifflet final, vous descendez immédiatement en zone mixte, comme on l'appelle, pour faire des interviews?
Oui, enfin c'est pas la peine de se précipiter non plus, parce que les joueurs passent par la douche, ils descendent pas, il arrive qu'on attende quelquefois 2 heures pour voir le premier joueur pointer le bout de son nez en zone mixte. Donc voilà, pas d'urgence. Au coup de sifflet final, déjà, on boit de l'eau. Surtout là-bas, il va faire 38 degrés.
On reprend son souffle.
Voilà, on reprend son souffle et puis on prépare un papier pour résumer le match, parce qu'il y a des journaux sur RFI qui suivent et les gens n'auront pas écouté forcément l'intégralité du match, et en une minute, on va leur résumer un peu ce qu'il faut retenir du spectacle auquel on vient d'assister. Et puis ensuite, ouais, au bout de 20 minutes, on descend en zone mixte et on attend les héros, les acteurs.
Alors justement, ces acteurs, est-ce qu'il est plus facile de les approcher, d'approcher ces joueurs durant une Coupe d'Afrique des Nations ou que pendant une Coupe du Monde, par exemple? Est-ce qu'il y a une ambiance un petit peu plus conviviale, familiale peut-être, je ne sais pas?
Non, l'écart ça s'est vraiment standardisé, hein, entre la Coupe du Monde et la CAN. Maintenant, toutes les zones mixtes ça s'est professionnalisé, si vous voulez. Donc, les joueurs sont habitués à traverser les zones mixtes. Bon, comme dans une Coupe du Monde, à la CAN, il y a des joueurs qui vont avoir envie de parler, et puis d'autres pas. Il y a des joueurs qui vont traverser la zone mixte en s'arrêtant à tous les postes, ils sont rares, et d'autres qui vont traverser la zone mixte avec leur téléphone portable collé à l'oreille, comme s'ils étaient dans une conversation absolument urgente, ce qui leur permet de court-circuiter les journalistes. Voilà.
Est-ce que vous avez des souvenirs, des anecdotes de Cannes là, que vous aimeriez partager avec nous?
Le meilleur souvenir, ça va me renvoyer à la CAN 2000, parce que c'était la première, et j'ai eu la chance de commenter la finale et de tomber sur l'une des finales les plus extraordinaires de l'histoire de la CAN, d'après ce qu'on dit aussi les plus anciens. C'était un scénario incroyable. Ça se jouait déjà à Lagos entre le Nigeria et le Cameroun, qui sont deux voisins et deux rivaux dans le football aussi. Et le scénario, c'est le Cameroun qui mène 2-0 avec des buts de Samuel Eto'o au fils, qui était surtout Samuel Eto'o jeune à l'époque, et puis Patrick Mboma. Ils marquent tous les deux, le Cameroun mène 2-0, tout le monde se dit « Ah, ça y est, la finale est déjà pliée », mais non, les Nigérians reviennent, une frappe phénoménale de JJ Okocha, vous voyez qu'il y avait des grands joueurs sur le terrain, Eto'o, Mboma, Okocha, et le Nigeria égalise, prolongation, tir au but, Ikpeba qui frappe la barre, qui frappe la transversale, le ballon rebondit derrière la ligne, mais il n'y avait pas l'assistance vidéo à l'époque, la goal line technology, et donc le tir au but qui était valable n'a pas été validé, et tout ça devant 60 000 spectateurs nigérians, vous voyez, dans je découvrais le football africain de très haut niveau, et j'ai été servi, et le Cameroun a fini par l'emporter chez son grand voisin et rival au tir au but.
Donc ça, c'était plutôt le côté antenne, mais les matchs seront aussi à suivre sur le site internet et les réseaux sociaux de RFI. La rédaction internet de RFI aura pas moins de 3 envoyés spéciaux en Égypte, David Kalfa, Farid Achache et Ndiaye Samb. Alors justement, est-ce qu'internet a modifié un petit peu votre façon de couvrir la CAN, vous en tant que journaliste? Est-ce qu'il se passe des choses et vous devez maintenant avoir votre regard aussi peut-être sur Instagram, sur Facebook, etc.?
Oui, si on a une bonne connexion, ça nous aide beaucoup. C'est vrai que ça... dans la préparation de la CAN, déjà, Internet facilite les choses pour la circulation des infos. Et puis, avec les réseaux sociaux, effectivement, on a des interactions avec nos auditeurs sur Facebook, sur notre page Facebook Mondial Sport. On se parle et les auditeurs se signalent à nous disent « on vous écoute là, à tel endroit, dans telle ville ». Donc ça, c'est sympa d'avoir ce retour et cet échange, même rapide. Et puis... on se sert aussi des réseaux sociaux, Twitter, notamment pour se faire une idée à la mi-temps de ce que pensent un peu les gens, voilà, parce que c'est toujours bon d'avoir des avis extérieurs. On discute évidemment avec les confrères pour savoir ce qu'ils pensent du match, si on est à peu près sur la même ligne, ils voient les choses autrement, etc. Et sur les réseaux sociaux, on trouve des choses. Alors on trouve de tout, mais on trouve aussi des choses intéressantes.
Et vous partagerez aussi des photos et des vidéos sur le compte Instagram RFI Sport qu'on a lancé dernièrement.
Absolument, on est parti pour ça.
Alors la finale, c'est le 19 juillet. Ensuite, il se passe quoi pour vous? Vous prenez des vacances?
Ouais, c'est obligatoire puisque c'est une longue.
C'est un marathon.
Ouais, c'est 5 semaines de reportage. Beaucoup de matchs à commenter. Il y a des équipes aussi qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'on va découvrir. Donc ça demande un effort particulier. Le Burundi, Madagascar débutent à la CAN. Hein. Ils n'ont jamais joué la CAN, donc on va découvrir ces équipes. Il y a des équipes qui sont difficiles à commenter, particulièrement du fait des noms qu'il faut mémoriser. Les Malgaches, c'est pas mal. Hein. Vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup de voyelles et beaucoup de lettres dans les noms. Heureusement, il y a les surnoms. Enfin, ça demande beaucoup d'énergie, de concentration, d'investissement. En fait, la CAN, pour nous, à partir du moment où on a le pied dans l'avion, on vit CAN, on mange CAN, on dort CAN, jusqu'au coup de sifflet final.
Alors, je ne peux pas ne pas vous demander qui sont, pour vous, les favoris de cette CAN. Sur qui on doit parier, en gros?
Beaucoup pensent aux mondialistes. On est dans une année post-Coupe du Monde, donc le Sénégal n'est pas passé loin de la qualif pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Il a une belle équipe. Le Maroc a fait aussi une belle impression dans le jeu, même s'il a eu un problème d'efficacité devant le but. Donc ces deux équipes-là, elles sont au rang des favoris. Il y en a d'autres, hein. Évidemment. On entend parler du Nigeria, on entend parler de la Côte d'Ivoire, pourquoi pas. L'Égypte, évidemment, parce que l'Égypte, en général, statistiquement, quand elle organise la CAN, elle la gagne la plupart du temps.
Merci beaucoup, Christophe Jousset.
Merci à vous.
Et je précise que Mondoblog, le réseau des blogueurs francophones réunis par l'équipe de l'Atelier des médias, va être pleinement mobilisé pendant toute la CAN. Mondoblogueurs et mondoblogueuses raconteront la CAN vue depuis les capitales africaines. À bientôt, Christophe.
À bientôt.
C'est bientôt la fin de cette émission et on continue à parler football avec Mondoblog Audio. Raman Bengue, du blog Vivement Dakar, se réjouit que la CAN attire une attention positive sur l'Afrique et pas sur les problèmes du continent.
Pendant la CAN, une mascotte en chasse une autre. Quelle image voit-on habituellement de l'Afrique? Celle de la misère. L'enfant africain, accablé par les mouches, la peau tirée sur les flancs, le ventre gonflé sur des jambes en coton-tige. Cet enfant est devenu la mascotte de l'Afrique. On le voit réapparaître à chaque famine, à chaque guerre, sur les papiers glacés des magazines, sur les écrans des grandes chaînes de télé. Le foot donne le change. La CAN ne doit pas détourner les regards des massacres, des maladies, du terrorisme. Mais cette manifestation donne à voir cette autre Afrique. Cette Afrique qui ne veut plus être un vulgaire grabat, mais un terrain de jeu, de saine passion. Pendant 3 semaines, un bruit singulier va rythmer sur le continent. Le cri sorti des entrailles d'un public de stade, repris avec un léger différé par les radios, les télés, et qui se transforme en un formidable écho dans nos villes, nos quartiers, nos villages. Écoutez cette clameur des stades. C'est l'addition des cris de chaque supporter, repris en cascade par les aficionados, dans les salons, dans les grandes places, dans les entreprises, dans les transports. C'est le pool de l'Afrique qui joue. Pour celui qui s'est prêté l'oreille, il y a dans cette clameur hurlante les accents de la passion, la modulation de joie ou de déception devant le but ou l'occasion manquée. Au-delà de ce tumulte, il y a un message subliminal à capter, le message des peuples d'Afrique, qui, malgré l'adversité et les épreuves, tentent de trouver leur place dans l'histoire. Il y a un formidable espoir en chaque Africain qui s'accroche aux foulées des footballeurs et à leurs exploits sur le terrain. Cette passion collective est un contrepoids au destin souvent tragique du continent. On peut déplorer l'influence grandissante du business, l'emprise croissante de l'argent et des applications technologiques sur le football moderne. Mais pour beaucoup d'entre nous, ce sport reste une école de la vie, où nous avons appris la solidarité, le don de soi, l'esprit d'équipe et la franche camaraderie. Dans le jeu des professionnels aguerris, dans le coup de rein enchanteur d'un Sadio Mané, nous recherchons le souvenir d'un geste lointain qui remonte au temps de l'enfance, de l'innocence. Quelque part, dans les rues d'Afrique, un gamin esquisse aujourd'hui le geste qui demain fera vibrer à l'unisson les cœurs. Si vous voulez savoir, c'est là que vient le doux chant. L'âpre chant des stades. En regardant la CAN, je ne rêve pas simplement de la victoire, mais d'une Afrique où chaque enfant pourra tranquillement taper dans son ballon.
Mondoblog.org.
Et c'est un rêve que l'on partage tous avec Raman Bengue du blog Vivement Dakar. Rendez-vous sur mondoblog.org pour retrouver tous les Mondoblog audio diffusés à ce jour. C'est la fin de cette émission que vous pouvez entendre en version longue sur notre podcast. Elle a été préparée avec Léo Caravagna, Camille Sarrazin et Camille Deloche. À la réalisation, Simon De Creuse, au micro, Steven Jambeau. Je vous dis à la semaine prochaine, même jour, même heure à la radio. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse atelier@rfi.fr. Et n'oubliez pas, si ce n'est pas déjà chose faite, de vous abonner au podcast de l'Atelier des médias.